C'est léger selon les premières constatations. L'effondrement est structurel et ne serait pas lié à une fuite de gaz. Quelques 145 sapeurs-pompiers avec 45 véhicules ainsi que nombreuses ambulances étaient mobilisées cette nuit. Donald Trump indigne les Européens après ses menaces de surtaxes douanières. Elles font suite au refus des Européens de laisser le président américain d'annexer le Groenland sans rien faire. Donald Trump brandit à nouveau sa carte du protectionnisme en menaçant d'appliquer dès le 1er février une hausse de 10% des tarifs douaniers à 8 pays européens. Le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande. Emmanuel Macron et le Premier ministre norvégien ont jugé ces menaces inacceptables. Le président français promet une réponse unie de la part des Européens. Après 25 ans de négociations, de vives contestations, en particulier par les agriculteurs européens, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur est signé. Signature faite hier en fin de journée au Paraguay. Une mobilisation d'agriculteurs est prévue ce mardi au Parlement européen à Strasbourg. Le Parti socialiste ne devrait pas censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu. Annonce du premier secrétaire du PS, satisfait des victoires obtenues avec les dernières annonces budgétaires du Premier ministre. Mais le chef des socialistes s'engage à ne pas censurer le gouvernement si le budget ne se finance non pas sur des nouvelles mesures, je cite, sur le dos des Français, mais bien en partie sur les grandes entreprises. C'est ce que demande Patrick Kanner, sénateur français, au micro d'Europe 1 Matin.
Il manque une partie dans les annonces de M. Lecornu, c'est comment on finance cela. Il faut les financer sûrement par des économies de fonctionnement de l'État, par des mesures de justice fiscale et qui doivent demander un effort particulier et exceptionnel à celles et ceux, grandes entreprises ou très hauts revenus, qui pourraient alléger la facture de l'État. Nous, nous sommes favorables maintenant à aller vite, il faut arrêter cette mascarade.
Donc pas de censure.
Pas de censure si la copie est propre, bien évidemment, et le 49.3 est l'outil le plus simple, le plus direct. Il faut donner un budget à la France.
Patrick Kanner, sénateur socialiste au micro d'Europe 1 Matin. Une interview à retrouver en intégralité sur le site et l'application d'Europe 1. En sport, début de l'Open d'Australie, des rencontres sont en cours, mais déjà un exploit dans ce grand chelem. La Française Elsa Jacquemot, 58e joueuse mondiale, renverse l'Ukrainienne Marta Kostyuk, tête de série numéro 20 en 3-7, 6-7, 7-6, 7-6. 3h30 d'une rude bataille. Bravo. Chez les hommes, Corentin Moutet, tête de série numéro 32, s'est qualifié pour le deuxième tour. Et dernière information, grosse performance cette nuit sur les parquets de NBA. Du français Victor Wembanyama, il compile 39 points, 9 rebonds et 2 contres en 30 minutes. Son équipe, les San Antonio Spurs, s'impose 126 à 123. À domicile face au Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert.
La France, les Français qui gagnent.
Brille à l'international.
Merci beaucoup Pierre Vesque. Il est 9h02 sur Europe 1. Votre météo.
La météo avec Avenir Rénovation. Votre partenaire confiance pour tous vos travaux. Avenir-rénovation.fr.
C'est le moment de voir si vous avez suivi, Alexis.
J'ai très bien suivi la météo. Je sais qu'il pleut, malheureusement d'ailleurs, dans le sud-est. Les pluies sont abondantes.
Exactement. 5 départements sont placés en vigilance orange, pluie, inondation. Les deux Corses, l'Hérault, l'Aude et l'Aveyron. Sur ces trois derniers, on a aussi une vigilance crue qui s'y ajoute. C'est notamment sur l'amont de l'Orbe, la Cesse et sur le tronçon d'Ourdou, Sorgue, Rance. On fait attention si on prend la voiture. On a pas mal de débordements importants sur certains axes routiers. La journée est plus calme sur le reste du pays. La moitié ouest est engoncé sous les nuages ce matin. On peut avoir quelques gouttes du côté du Berry ou du Limousin. Quelques grisailles matinales aussi sur le Lyonnais, le Val-de-Saône ou les plaines d'Alsace. Sinon, le grand quart nord-est est ce matin sous un ciel un petit peu variable. Ça va s'améliorer avec le retour du soleil beaucoup plus généreusement en deuxième partie de journée. Mm-hmm. Et puis pour les températures...
Elles sont assez douces.
Oui, c'est assez également doux.
Ce sera assez doux cet après-midi, mais ça reste un peu plus frais le matin, ce qui est logique.
Exactement. On a quelques petites gelées encore au réveil du côté de Belfort avec moins 1 degré. Il fait 3 à Dijon et Verdun. Vous avez 5 à Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand et Aurillac. 6 degrés pour Guéret, Valence, au Puy-en-Velay et à Lorient. Il fait 7 à Aubenas, Rodez et La Rochelle. 8 à Châteauroux et Mont-de-Marsan. 9 à Paris, Manosque et Brive-la-Gaillarde. Vous avez 10 à Carcassonne comme à Montpellier. Et 12 degrés ce matin pour Marseille, Bastia et Toulon.
On est donc au-dessus.
On est au-dessus des normales de saison.
En tout cas, vous savez à présent, ce dimanche 18 janvier.
Comment s'habiller ?
Comment vous habiller avant de partir de chez vous ? Merci d'avoir une fois de plus choisi Europe 1 Matin Week-end. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous écouter.
Et on vous en
Ça
remercie.
Fait vraiment plaisir. On vous retrouve le week-end prochain et dans un instant, eh bien, place à cette arrivée demain. C'est avec Frédéric Taddeï.
Bonne matinée.
Belle
et bon
matinée
dimanche.
À tous sur Europe 1. Bon dimanche.
Europe 1. Peugeot. Impossible de résister aux leaders de l'hybride.
Jusqu'au 31 janvier, pendant les irrésistibles Peugeot, craquez pour la 208 hybride dès 169 € par mois et jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Rendez-vous en point de vente ou sur Peugeot.fr. Portes ouvertes du 15 au 19 janvier.
Source 3A au 30 novembre 2025. LLD 49 mois, 40 000 km pour une 208 style hybride. Premier loyer 2 500 €. Offre réservée aux particuliers sous conditions de reprise et acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Merci à Catherine. Merci à Nicole. André. Mireille. Ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
On avait dit 2026, fini le superflu.
C'est le cas, Leapmotor T03 électrique.
Et la caméra de recul, le toit panoramique.
Et cette série, dès 139 € par mois et sans apport, pendant les portes ouvertes du 16 au 18 janvier.
Ah, waouh! Citadine électrique T03, c'est ça la bonne résolution. Leapmotor, lancez-vous. LLD 36 mois, 30 000 km, prime Certinergie 360 € déduite pour une T03 9 heures option. Réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu'au 31 janvier si acceptation crédit part. Au quotidien, prenez les transports en commun.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. Quelles sont les options de Sébastien Lecornu pour que la France se dote enfin d'un budget et qu'il puisse rester à Matignon? On va poser la question à Benjamin Morel. Je recevrai ensuite l'anthropologue Pascal Boyer qui publie « L'impossible démocratie » ou « Comment nos instincts façonnent et déforment l'idéal politique ». Et oui, la politique, ce n'est pas qu'une histoire de programme ou d'argumentation. La politique, c'est biologique. Il va nous expliquer pourquoi. Et l'on terminera l'émission avec la philosophe Chantal Delsol pour son nouvel essai « La tragédie migratoire et la chute des empires ». Benjamin Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes constitutionnaliste, vous êtes l'auteur d'un livre remarquable, « Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme chez Passé Composé ». Vous analysez les graves déséquilibres politiques et institutionnels qui perturbent notre pays. En effet, la France n'a toujours pas de budget. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a mis vendredi ses propositions sur la table, espérant obtenir le soutien ou la neutralité de LR et du PS. On a l'impression qu'on n'a pas avancé d'un pouce depuis un mois.
Non, on n'a pas beaucoup avancé depuis un mois, en effet. C'est-à-dire que les équilibres politiques qui, à l'époque, bloquaient la potentielle adoption d'un budget, aujourd'hui, n'ont pas vraiment évolué. Les socialistes ne vont pas voter le budget, les écolos non plus, et ils vont même pas s'abstenir. Ça, on le savait déjà avant les vacances de Noël, et la chose n'a pas bougé. Donc, dès lors, se pose la question du véhicule, au fond. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive quand même à faire passer le budget? Et là, on tombe sur le duo 49-3, grand tabou depuis que Sébastien Lecornu y a renoncé, ou les ordonnances, problème démocratique et puis tabou aussi. Hein. Sébastien Lecornu a dit à plusieurs reprises qu'il en était hors de question. Seulement, ce tabou va devoir être brisé. Mais avant de le briser, il faut s'assurer un pacte de non-censure, ce à quoi on a assisté avec le discours de Sébastien Lecornu vendredi soir. Mais c'est une forme de liste de course des socialistes pour essayer d'obtenir cette non-censure avant d'arriver à l'annonce de la méthode.
Pour faire adopter le budget sans vote, le Premier ministre dispose en effet de deux outils constitutionnels. Vous l'avez rappelé, le premier c'est le 49-3, mais il a promis aux socialistes de ne pas y avoir recours. Et si 49-3 il y avait, le gouvernement pourrait être renversé par une motion de censure, hein, que le PS, se sentant trahi, risquerait de voter.
Alors en effet, si vous avez un 49-3, alors les Français commencent à bien le connaître cet article, mais le gouvernement s'engage sur son texte, et le texte est adopté, sauf si une motion de censure est votée. Et donc à partir de là, il faudra, pour faire passer ce budget, à minima 3 49-3. C'est un peu technique, mais sur la partie 1, les recettes, sur la partie 2 et l'ensemble, un deuxième, et ensuite le texte pour partir au Sénat fera donner le dernier mot à l'Assemblée, ce qui fera à minima un troisième. Donc ça veut dire 3 motions de censure auxquelles le gouvernement devrait survivre, sachant qu'arithmétiquement, il suffit qu'il y ait un tiers du groupe socialiste qui vote la motion de censure pour que le gouvernement tombe. Alors donc c'est risqué. Cela dit, on a malgré tout aujourd'hui un groupe socialiste qui se dit qu'il n'a pas vraiment intérêt à une censure et qu'au fond, un 49-3 où on reprendrait la plupart des éléments qui lui semblent nécessaire, important pour sauver la face et rééquilibrer un peu le budget serait un motif de non-censure. Donc, il est clair qu'il y a une voie aujourd'hui pour cette non-censure. Mais comme vous l'avez très bien dit, le Premier ministre s'est engagé à ne pas l'utiliser. Olivier Faure a demandé la peau du 49.3. Donc maintenant, il y a un sujet de communication politique, de narratif politique pour arriver à défaire ce que la communication politique a fait il y a quelques mois dans la renonciation de ce 49.3.
Pourquoi le Parti Socialiste n'a pas intérêt à la censure, à votre avis ?
Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y avait des bons sondages pour le PS il y a quelques mois. Ces sondages, donc sur une potentielle dissolution et de potentielle législative, ces sondages, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais il est probable que le PS soit plus en fragilité. Et de l'autre côté, il y a des élections municipales. Et ces élections municipales, si jamais elles devaient être couplées à une dissolution, d'où le discours de Sébastien Lecornu il y a quelques jours sur une potentielle dissolution, ça voudrait dire que ces élections municipales seraient très nationalisées. Ça veut dire que aux élections municipales viennent voter des électeurs LFI, des électeurs RN, et qu'il y a beaucoup de bastions socialistes et LR qui tomberaient. Or, aujourd'hui, le PS comme LR sont d'abord et avant tout des partis d'élus locaux, ce sont des partis très féodalisés. Donc le parti a peur fondamentalement de ça. Par ailleurs, l'idée qu'au fond le Parti Socialiste ait arraché la suspension de la réforme des retraites, le repas à 1 euro pour les étudiants, certains gages pour les retraités, c'est une façon de sortir la tête haute et d'expliquer qu'il y a une gauche constructive contre une gauche qui ne le serait pas. Un petit regard vers la France insoumise de leur part, et de l'autre côté, qu'ils ont soigné leur clientèle en vue des prochaines élections.
Le second outil constitutionnel, c'est l'article 47, le recours à une ordonnance budgétaire. Vous parlez de tabou, pourquoi ? Ce serait complètement inédit ?
Alors, les ordonnances de l'article 47 alinéa 3, c'est en effet complètement inédit. On a déjà utilisé des ordonnances sous la 5e République, mais c'est des ordonnances législatives, c'est pas du tout la même chose. Les ordonnances dites de l'article 38, qu'est-ce que c'est ? Vous commencez par voter une loi d'habilitation, le Parlement donne son autorisation, puis à la fin, le gouvernement émet une loi de ratification qui devrait théoriquement être voté par le Parlement, donc le Parlement a le dernier mot. Là, les ordonnances de l'article 47, les ordonnances budgétaires, c'est pas du tout ça. Vous réunissez un Conseil des ministres, vous constatez que ça fait plus de 70 jours qu'on discute du budget, et dans le Conseil des ministres, vous adoptez les ordonnances. Le Parlement n'a pas donné son aval, et le Parlement ne sera jamais consulté. Le gouvernement a donné contre son avis un budget à la France. Et donc c'est très violent. Il faut bien comprendre que le régime parlementaire en France s'est construit depuis 1816 sur le contrôle budgétaire. Et ça serait un peu inédit qu'on ne vote pas un budget. C'est quelque chose qu'on a emprunté à la constitution allemande de Weimar, qui venait de la constitution allemande bismarckienne et qui était une façon à l'époque pour le gouvernement allemand d'imposer sa volonté au Reichstag. Donc c'est quelque chose d'assez dur, plutôt mis en place pour les situations de grande urgence, guerre, effondrement politique, que pour la gestion courante des institutions. Donc c'est sûr que ce serait un tabou de rompu et une fenêtre d'Overton ouverte.
Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de budget avant mi-février, au moins, ce qui n'est pas sans conséquence, hein.
Alors, si jamais on passe par la voie du 49.3, il est probable qu'en effet, il faille un peu de temps, parce qu'il faut que le texte reparte au Sénat, qu'il revienne à l'Assemblée. Ça peut aller relativement vite, mais ça nous porte début février. Si on a des ordonnances, le gouvernement, pour tenter de sauver sa peau et tenter d'éviter une motion de censure, sera très tenté de déposer un projet de loi de finances rectificative. Donc, on repartira dans la discussion budgétaire. Il y a loin de la coupe aux lèvres avant que ce texte rectificatif soit voté, mais il en aura besoin pour des raisons politiques, donc on continuera à discuter, et ça peut même s'étendre au-delà du mois de février. Et en effet, plus on tourne avec des lois spéciales, plus c'est coûteux, tout bêtement, parce que les lois spéciales, ça a un gros impact sur l'économie, étant donné que ça freine énormément l'investissement de l'État, ça freine également énormément la capacité pour l'État de mener de nouvelles politiques. Et on pense évidemment à la question de la défense. Et derrière, vous avez à la fois des pouvoirs publics engoncés, fragilisés, et derrière, des entreprises privées qui vivent de la commande publique, qui sont extrêmement fragilisées, surtout que les collectivités territoriales en pleine élection n'investissent pas beaucoup non plus. Donc le risque, c'est que si on tourne trop longtemps avec des lois spéciales, on se retrouve à terme, avec plus de déficits et deux, avec moins de croissance.
Benjamin Morel, dans ce nouveau régime où l'on est amené à gouverner sans majorité, l'Assemblée étant divisée en trois blocs irréconciliables, que faudrait-il faire d'après vous pour avoir un budget en temps et en heure ?
Alors on a fait paraître avec Clément Beaune pour une note au commissariat au plan pour proposer quelques modifications de la procédure budgétaire qui apparaît aujourd'hui un peu archaïque. Je crois qu'il y a plusieurs éléments fondamentaux. D'abord, il faut envisager quelque chose de pluriannuel, hein, notamment lors d'une législature, qu'on puisse en réalité se projeter sur plusieurs années. C'est nécessaire aujourd'hui pour des grands investissements, pour parvenir à investir dans la transition écologique, l'intelligence artificielle, la réindustrialisation.
Attendez, juste certain... pour bien comprendre, ce sont les lois budgétaires que vous voudriez pluriannuelles, là où elles sont annuelles pour l'instant.
C'est ça. En tout cas, on doit avoir des perspectives budgétaires pluriannuelles. Ensuite, on peut avoir un budget par an. Mais ce budget par an, ben, adapte ce cadre pluriannuel pour qu'on ait une cohérence dans le temps de l'action de l'État, des politiques publiques, à la fois de la réduction du déficit, mais également quels investissements, etc. Il faudrait également séparer investissement et frais de fonctionnement, hein, comme on le fait dans les collectivités territoriales, parce qu'aujourd'hui, l'un des grands sacrifiés dans les moments qu'on vit, ben, c'est l'investissement. Donc, qu'est-ce que l'on fait demain pour relancer la croissance, relancer l'industrie, etc. Donc, on a un cadre qui, là-dessus, est pas forcément très bon. Et puis, il faut parvenir à se mettre d'accord sur les chiffres, si vous voulez. Combien ça coûte et combien ça rapporte, la taxe Zuckmann, par exemple ? Personne n'en sait rien, ou en tout cas, on a des chiffres extrêmement contradictoires. Combien ça coûte, combien ça rapporte ? Une taxe sur les multinationales, on n'en sait pas grand-chose, on a des chiffres contradictoires. Il faut réarmer le Parlement en matière de moyens d'expertise, il faut avoir une capacité de réfléchir à ces questions bien en amont pour être au moins certain des conséquences des mesures que l'on prend. Là, la manière dont s'est passé cet examen budgétaire, c'est pas forcément la faute de Sébastien Lecornu qui a hérité d'une situation cataclysmique à la chute de François Bayrou, mais c'est une négociation au jour le jour sur des amendements dont on ne connaît pas vraiment les conséquences économiques. Donc vous comprenez bien que ça, bah, ça donne pas forcément quelque chose de très performant d'un point de vue budgétaire, et puis pas non plus quelque chose de très démocratique, parce qu'au fond les parlementaires votent, mais ils votent sans cohérence globale, sans vision globale, sans projet politique global et sans compréhension des conséquences évidentes de ce qu'ils votent. Donc là, il y a tout un travail de réorganisation de la procédure budgétaire. Certains pays européens sont déjà un peu avancés sur ce terrain-là, je pense par exemple à la Suède, mais beaucoup se posent également ce type de questions. Dans un monde qui change, c'est vrai que la procédure budgétaire, c'est une façon de repenser la manière dont on conçoit les politiques publiques. Et donc, c'est pas qu'une question de cuisine parlementaire, c'est une vraie question démocratique et c'est une question d'avenir du pays.
Vous parlez également de fusionner la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances, c'est-à-dire le budget, hein, que l'on vote séparément, mais aussi de supprimer l'article 40 qui interdit aux parlementaires de déposer des amendements créant des dépenses supplémentaires pour l'État. Pourquoi ? Vous trouvez qu'on n'est pas assez endetté ?
On est endetté, certainement, mais c'est pas la faute des parlementaires, puisqu'il y a l'article 40. Si vous voulez, la Constitution de la Ve République a été pensée avec des enfants, les parlementaires, qui vont évidemment dépenser tout leur argent de poche, et un adulte responsable dans la pièce, qui est le gouvernement, qui lui va les en empêcher. Force est de constater que l'adulte responsable devrait être mis sous tutelle. Hein. C'est-à-dire que la situation aujourd'hui des finances publiques n'en est fait pas tout à fait heureuse, et c'est la faute du gouvernement. Donc on rééquilibre en fait les pouvoirs en concentrant déjà le débat budgétaire sur le budget, parce qu'aujourd'hui vous pouvez créer des taxes par amendement sur ou par un projet de loi sur tout texte. Donc il s'agit de reconcentrer vraiment toutes les questions budgétaires. On ne peut créer une taxe que quand on vote le budget, etc., et de mettre les parlementaires avec des, encore une fois, des vrais moyens d'évaluation de leurs actions en place, et le gouvernement à égalité. Ça permet, entre guillemets, de construire une procédure qui est une procédure à la fois équilibrée et en même temps, étant donné que, on est dans le pluriannuel, on est dans une vision qui est une vision prospective à long terme, de limiter également la potentialité d'écart. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une vision pluriannuelle, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, vous pouvez moins sortir des cadres. Et donc, ce faisant, ces armes-là, qui seraient les amendements créant des dépenses, etc., ont un effet qui est un effet moins dépensier. Ensuite, sur la fusion PLF-PLFSS, il s'agit d'avoir une clarté budgétaire. Parce que regardez ce qui s'est passé cette année, c'est que on avait besoin d'argent pour équilibrer le PLFSS parce qu'on avait fait trop de dépenses et pas assez de recettes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on n'a qu'à dire que les recettes supplémentaires dont on a besoin et qu'on n'arrive pas à trouver, c'est l'État qui pourvoira. Autrement dit, on a renvoyé au PLF, donc au texte qu'on n'arrive pas à voter, là, les recettes qu'on n'arrivait pas à trouver pour voter le PLFSS. Alors on a voté un PLFSS, mais du coup on a beaucoup plus de mal à trouver l'argent suffisant pour le PLF, parce qu'en fait, on a reporté les problèmes. Donc ça, vous voyez que ça peut pas fonctionner, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir un PLFSS sur lequel il y a beaucoup de dépenses en matière sociale en France, qui renvoie... en sacrifiant des dépenses d'investissement pour le coup dans le PLF, etc., qui renvoie au budget de l'État le soin de pallier ses carences. Si on veut vraiment avoir une vision globale et si on veut avoir une honnêteté dans le débat et dans les comptes, il faut arriver à tout poser sur la table et à voter un texte commun.
Je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, le PLFSS, c'est le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, et le PLF, c'est le projet de loi de finances. Merci Benjamin Morel. Je renvoie à la lecture de votre livre, Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme, c'est chez Passé Composé. Le prochain sortira bientôt, je crois.
Oui, c'est ça. Il y a un nouveau livre qui devrait paraître en mars, donc chez Odile Jacob, qui s'appellera La majorité introuvable.
Merci encore. On a maintenant rendez-vous avec l'anthropologue Pascal Boyer. Lui, il publie non pas L'impossible parlementarisme, mais L'impossible démocratie, ou comment nos instincts façonnent et déforment l'idéal politique.
C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Toyota. Toi aussi, franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de trois rues. Coincé dans les bouchons? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota Ego Cross.
100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota Ego Cross est à partir de seulement 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota Ego Cross Dynamique LLD, 37 30 000 km, premier loyer, 3 990 euros, réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 février dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Il est 19h et vos enfants vous ont déjà demandé 11 fois « Quand est-ce qu'on mange ?» Entre ça, les devoirs, le bain et votre fils qui vous explique pourquoi les billes bleues, elles sont super rares, là, c'est pas votre meilleure soirée. Alors, vous commandez des pizzas pour toute la famille. En plus, devinez quoi ? Pour un plat acheté, vous avez un plat offert sur une sélection de restaurants. Tiens, c'est votre Deliveroo. Ah, là on est bien. Offre disponible près de chez vous selon les conditions des restaurants participants sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2 700 euros. Prix maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault.
Chasseurs de promos, en ce moment c'est les soldes sur Cdiscount, votre e-commerce en français.
Ah, après une fin d'année à penser aux autres, c'est le moment de penser à moi.
Et nous aussi on pense à vous. Du 7 janvier au 3 février, profitez de soldes jusqu'à moins 50% en high-tech, sport ou maison par exemple. Cdiscount, des prix bas qui ont de la voix.
Cdiscount !
Si je te dis Dolce Vita.
Fiat.
Si je te dis pot de yaourt.
500.
Si je te dis branché.
Électrique.
Non, si je te dis branché.
Bah, 500.
Mieux, la nouvelle 500 hybride.
Évidemment 500. Toujours branché, sans être branché.
Nouvelle Fiat 500 hybride à partir de 159 euros par mois et garantie jusqu'à 8 ans. Portes ouvertes ce week-end. Pour 500 hybrides Pop LLD 49 mois 40 000 km, apport 2800 euros sous condition de reprise. Reprise EcoFiat de 500 euros déduite, c'est accord crédit part jusqu'au 31 janvier. Détaillez conditions sur Fiat.fr. Fiat. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
9h, 10h. C'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Pascal Boyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, vous occupez la chaire d'anthropologie cognitive à l'Université Washington de Saint-Louis et vous publiez « L'impossible démocratie » ou « Comment nos instincts façonnent et déforment l'idéal politique », c'est chez Robert Laffont. Vous voulez dire que la politique est liée à la nature humaine et que l'on n'est pas raisonnable sur le plan politique, on obéit à nos instincts, c'est ce qui rendrait l'idéal démocratique, la politique telle que nous la rêvons, si difficile à atteindre ?
Oui, c'est ce qui la rend difficile, mais c'est aussi ce qui la rend possible. Hein. Ce dont je parle, c'est de biologie, c'est-à-dire, je dis, dans politique, beaucoup de choses sont biologiques. Ça ne veut pas dire les cellules ou les tissus, mais ça veut dire ce qui vient de notre évolution, comme vous le disiez, c'est-à-dire l'espèce de logiciel politique pour faire marcher les sociétés que nous avons dans la tête, tous. Du fait de l'évolution. Alors, il nous permet de construire des sociétés complexes, mais il nous engage aussi à des comportements, des motivations qui peuvent lui nuire. Et c'est pour ça que je pense que le livre peut adresser des problèmes comme la montée du populisme, l'esprit partisan, l'extrémisme politique et des choses de ce genre.
Pour comprendre la politique, il faut comprendre certains aspects cruciaux de la cognition humaine, dites-vous. Alors, par exemple.
Oui, c'est tout à fait le cas. Alors, pareil, ça fait que beaucoup de choses qui nous paraissent des choses uniques, nouvelles de notre temps, sont en fait des tendances assez communes, assez générales de dans les sociétés humaines. Alors par exemple, l'émergence d'hommes forts, de ce qu'on appelle les populistes, les leaders qui convainquent des foules. Alors ça, c'est un phénomène qui existe de beaucoup, et comme je l'explique dans le livre, c'est un phénomène qui apparaît surtout lorsque la population pense le gouvernement en termes d'opposition à d'autres groupes, de menaces faites par d'autres groupes. Alors on voit que dans des situations de ce genre, les gens ont tendance à préférer un leader qui sera fort, autoritaire, mais aussi, et alors c'est ça la contrepartie de ce genre de choix, un leader qui peut être illibéral, comme on dit, non libéral, c'est-à-dire qui est peut-être aussi autoritaire à l'intérieur que vis-à-vis des groupes qui nous menacent. C'est quelque chose qui est établi en psychologie et qu'on voit monter dans beaucoup d'endroits. Le populisme, c'est pas forcément de droite, ça peut être aussi de gauche, ça peut être religieux. C'est souvent un symptôme d'une société où beaucoup de gens se pensent menacés par d'autres groupes.
Et ça existe de tout temps, quasiment. On porte ça en nous, dans notre logiciel politique, depuis très très longtemps.
Oui, parce que vous pouvez voir que même dans des sociétés très petites, hein, des sociétés qui sont des bandes de 200, 500 personnes, la plupart du temps, quand on choisit un leader, on le choisit, un chef en quelque sorte, on choisit en termes de compétences, de management, de savoir-faire. Mais par contre, en temps de menace vis-à-vis d'autres groupes, on va préférer un leader qui sait construire des alliances, qui a l'énergie, disons, la force de pouvoir nous défendre contre les autres. Et c'est un moment qui semble revenir dans beaucoup de démocraties libérales en ce moment, mais qui n'est pas étonnant, qui n'est pas très nouveau. Une autre chose qu'il faut savoir à propos de ces leaders, c'est qu'ils n'accèdent pas à leur avoir d'influence ou du pouvoir en faisant du lavage de cerveau. C'est-à-dire que les gens qui les suivent sont des gens qui font une espèce de marché, en quelque sorte, qu'ils s'en rendent compte ou pas, entre eux-mêmes comme suiveurs et puis le leader comme décideur, où ils pensent qu'il nous sert parce qu'il défend notre groupe contre d'autres groupes, mais en contrepartie, nous acceptons une certaine limite à notre autonomie. Et c'est pour ça que ces gens peuvent devenir des leaders autoritaires sans beaucoup d'opposition de la part de la population.
Pourquoi est-ce qu'on a des opinions politiques, Pascal Boyer ? Pourquoi y a-t-il des partis politiques ? Il n'y en avait pas au Moyen-Âge.
Ah ben, il n'y en a pas toujours, parce qu'évidemment, il y a des sociétés, la plupart des sociétés tyranniques, on n'a pas de débat sur la ligne politique. Mais dans les démocraties, c'est vrai que même dans des États où les gens pensaient qu'il n'y aurait pas de partis politiques, par exemple à la fondation des États-Unis, les pères fondateurs, comme on dit, pensaient que tout pourrait se délibérer au Congrès sans qu'on forme ce qu'ils appelaient des factions ou des tribus politiques. De même en Inde, quand l'Inde est devenue indépendante, beaucoup de gens pensaient qu'il n'y aurait un forum politique, parlementaire, mais qu'il n'y aurait pas de parti. Mais il se trouve que ça devient des partis parce que ça aussi, c'est une tendance qui existe dans notre logiciel politique, qui est de former des cliques, des groupes, des tribus qui essayent d'accaparer la plus grande partie possible de ce qui est géré par le en tant que bien commun. Alors on voit ça dans des petites sociétés très petites, mais on le voit aussi dans toutes les organisations, si vous voulez, par exemple, dans des compagnies, dans des corporations, des business. Si vous êtes dans une entreprise qui a plus de 10 personnes ou de 20 personnes, il va y avoir des clics, des camps, des réseaux de gens qui sont contre dans d'autres réseaux. En d'autres termes, on ne gère pas la politique comme une affaire commune à gérer, mais plutôt comme la compétition entre plusieurs équipes. Et ça, comme c'est une tendance qui est extrêmement forte dans les organisations humaines, quand on a un domaine comme la politique, qui est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire quand il y en a qui gagnent, d'autres perdent, ça évoque aussitôt cet esprit coalitionnel. Alors, l'effet sur les opinions, il est très intéressant parce que il y a beaucoup d'expériences, par exemple, qui montrent que quand les gens sont affiliés à un certain parti, un politique, un certain camp, si on leur présente une politique, un programme, auquel ils n'ont jamais pensé, dont ils ne savent rien, mais que l'on leur présente comme émanant de leur parti ou des ennemis, on peut prédire tout à fait leurs opinions sur ce point précis. Donc, on peut dire aux gens, voyez, votre parti préfère dépenser sur les routes plutôt que les hôpitaux, et on va avoir des gens qui vont dire, ah bah oui, c'est exactement ça qu'il faut faire, et avec beaucoup de vigueur, d'émotion. Et la vigueur et l'émotion associée à ces opinions n'est pas tant liée aux faits dont on parle, mais beaucoup plus à cette puissance de signal, en quelque sorte. C'est-à-dire que, en étant approbateur de cette mesure, je signale à beaucoup d'autres gens que je fais partie du camp. Et aussi, en quelque sorte, je signale à d'autres que il vaut mieux que je ne suis pas de leur camp.
On fait une pause, Pascal Boyer, et on va creuser encore un peu plus la question.
Bonjour, c'est Stéphanie Demuru. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Ouvrir le micro à toutes les opinions.
Stéphanie Demuru, Europe 1 Soir Weekend, du vendredi au dimanche, de 19h à 21h. Europe 1.
La radio libre.
Lidl, ça vaut le coup. Jusqu'à 40% de réduction sur la gamme de noix et fruits secs de la marque Alesto, ça vaut carrément le coup. Bonne nouvelle, profitez de jusqu'à 40% de réduction sur le deuxième produit de la marque Alesto avec Lidl Plus. Parfait pour faire le plein de fruits secs gourmands et de noix savoureuses. Lidl, ça vaut le coup. Offre valable jusqu'au 18 janvier sur une sélection de produits. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Pendant les jours de l'évasion du 16 au 19 janvier, le nouveau SUV Citroën C3 Aircross est à partir de 199€ par mois.
Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2 500€, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr selon réseau participant. Pensez à covoiturer.
T'es où ?
Je me suis perdu, trop d'offres.
On est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300€ de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Pascal Boyer est anthropologue, il occupe la prestigieuse chaire d'anthropologie cognitive à l'université Washington de Saint-Louis. Et il publie « L'impossible démocratie » ou « Comment nos instincts façonnent et déforment l'idéal politique ». Ça vient de paraître chez Robert Laffont. Pourquoi, Pascal Boyer, pourquoi les programmes politiques échouent-ils si souvent ?
C'est un de ces problèmes dont je parle dans le livre, où nous essayons toujours d'utiliser notre logiciel politique qui, en quelque sorte, vient de notre évolution. Donc il vient de ce que nous avons fait pendant des centaines de milliers d'années, c'est-à-dire de gérer des petites communautés, de les gérer avec des gens que nous connaissons personnellement. Alors quand on applique ça à des très grandes, des pays industriels, on se retrouve avec beaucoup de problèmes. On se retrouve d'abord avec le problème que les gens ne voient pas en quoi et comment la volonté politique se traduit dans leur vie. On appelle ça le déficit démocratique très souvent, mais c'est pas tant le déficit démocratique, c'est surtout l'importance de l'administration, la bureaucratie fait que le fait que le gouvernement, en quelque sorte, veuille faire ceci ou cela, ne veut pas dire que ceci ou cela va nous arriver. Il y a toutes sortes d'obstacles qui se passe. Et le fait que toutes les administrations, tous les gens qui sont en charge de mettre en place une politique ont leurs propres intérêts, ont leur propre compréhension des mesures en question, qui peuvent ne pas être ceux du reste de la population. Et puis ça aboutit quelquefois, alors c'est à ces exemples comiques qui sont les politiques dont les résultats sont exactement l'inverse du résultat envisagé. Je prends des exemples qui parfois sont commis. Alors, il y a des exemples bien connus, comme par exemple, on veut taxer les riches, alors on dit que les maisons qui ont beaucoup de fenêtres paieront beaucoup d'impôts. Alors, ce que font les gens, c'est qu'ils murent leurs fenêtres. Oui. On voit le résultat encore dans Paris. On voit certains immeubles où il y a un village en Inde qui dit on a trop de serpents. Alors, on va donner une prime à toute personne qui apporte des serpents qu'ils auront tués. Et comme ça, c'est bien. Alors, ça fait qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui élèvent des serpents dans leur cave pour avoir des primes. Donc, ce genre de phénomène résulte souvent du fait que les politiques et la population pense qu'il y a une traduction simple des intentions vers les actions. C'est-à-dire, si on a l'intention, par exemple, de faire que les gens plus pauvres aient un meilleur salaire, alors on va faire, par exemple, un salaire minimum plus haut. Beaucoup d'économistes disent oui, ça a un certain effet comme ça, mais souvent, ça fait aussi beaucoup de chômage. Alors du coup, ça a un effet qui peut être contraire sur les populations plus pauvres. De même, par exemple, les pays qui ont le plus d'aide sociale, très souvent vont être les pays où le ressentiment vis-à-vis des nouveaux venus, hein, des migrants, va être très fort. Parce que nous pensons souvent les actions, les aides sociales, la sécurité sociale en France, par exemple, tout ça, comme un système où nous contribuons tous et nous touchons tous les bénéfices. Mais il faut que tout le monde contribue. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de sociétés humaines, depuis les plus petites jusqu'aux plus grandes. C'est ce qu'on appelle une action collective. Eh bien alors, les nouveaux venus, par définition, ils n'ont pas pu contribuer, puisqu'ils sont nouveaux venus. Et ça les met évidemment dans la position, du point de vue de beaucoup de gens dans la population, de tricheurs, puisque c'est des gens qui touchent un bénéfice et n'ont pas contribué. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... les politiciens qui voudraient combattre cette perception très souvent se plantent en quelque sorte parce qu'ils ne pensent pas à ce phénomène très simple qu'il y a dans la population, que on pense à la société comme une action collective. C'est un peu comme si on construisait on va creuser un puits ensemble, et ben après tout le monde aura de l'eau. On va défricher une forêt ensemble, et comme ça tout le monde aura un champ. Ce genre d'action collective, c'est ça qui rend la vie en grande société possible, mais c'est aussi ce qui provoque des réactions quelquefois, comme le rejet du nouveau venu, comme aussi le ressentiment vis-à-vis des classes populaires parce qu'on pense qu'on les aide trop et qu'ils ne contribuent pas, et toutes sortes d'effets pervers de ce genre-là, que je crois on comprend beaucoup mieux si on se focalise pas seulement sur la politique de maintenant, mais beaucoup plus sur la politique de maintenant comme expression de la politique de toujours, de la nature humaine dans son expression, dans les événements politiques.
Pascal Boyer, il ne nous reste plus qu'une minute, mais je ne peux pas ne pas vous poser cette question-là. Pourquoi les discussions autour des armes à feu aux États-Unis, ou de la laïcité en France, ou de la défense des animaux, ou de la défense de la planète, paraissent-elles aujourd'hui insolubles ? Il n'y a plus de compromis possible. On a l'air, quand on n'est pas d'accord, on a l'air irréconciliable. Pourquoi ?
Oui, c'est ce qu'on appelle en anthropologie des valeurs sacrées. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit, par exemple, on pourrait dire porter des armes, pas porter des armes, bon, ben, y a des avantages, des inconvénients, on va voir à quel point on doit mettre le curseur entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Une fois que ces choses sont formulées de manière sacrée, c'est-à-dire la défense de la vie, la défense de ma sécurité, ben là, il n'y a plus de compromis. Je peux pas dire oui, je tiens à votre vie, Frédéric, mais enfin, bon, dans certaines limites. Alors ça paraît criminel.
C'est effectivement une bonne explication. Merci Pascal Boyer, je renvoie à la lecture de votre livre « L'impossible démocratie » ou « Comment nos instincts façonnent et déforment l'idéal politique ». Ça vient de paraître chez Robert Laffont. Merci.
Merci.
On fait une pause et je reçois la philosophe Chantal Delsol qui publie « La tragédie migratoire et la chute des empires » chez Odile Jacob. Retrouvez Au cœur de l'histoire en podcast. Chaque jour, Europe 1 vous fait le récit de personnages, de monuments ou d'événements qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, Agatha Christie, la Lady du crime. Au cœur de l'histoire, un podcast à écouter dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'application Europe 1.
C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Lexus. On dit souvent que les belles rencontres se font lorsqu'on s'y attend le moins, qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Et soudain, votre regard s'arrête sur une Lexus. Ne passez pas à côté d'elle.
Pendant les rencontres d'exception, venez essayer le Lexus LBX, notre SUV compact hybride à partir de 299 € par mois, entretien inclus. Lexus LBX LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 990 €. Offre particulier pour toute commande jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détails sur Lexus.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel?
Yes, of course.
Une Corse avec Apple CarPlay et Android Auto?
Yes.
À partir de 15 900 € et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5 000 € déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. IS égale oui. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit-fils.com.
Impossible de résister au leader de l'hybride. Jusqu'au 31 janvier, pendant les irrésistibles Peugeot, craquez pour la 208 hybride dès 169 € par mois et jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Rendez-vous en point de vente ou sur Peugeot.fr. Portes ouvertes du 15 au 19 janvier.
Source 3A au 30 novembre 2025. LLD 49 mois, 40 000 km pour une 208 style hybride. Premier loyer 2 500 €. Offre réservée aux particuliers sous conditions de reprise et acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Chantal Delsol.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes professeur émérite des universités en philosophie politique et vous publiez La tragédie migratoire et la chute des empires chez Odile Jacob. C'est sous-titré Saint-Augustin et nous. Qu'a-t-il à nous apprendre d'après vous, Saint-Augustin, l'évêque d'Hippone, aujourd'hui à Naba en Algérie, hein, est mort en 430
oui. Bah écoutez, il a à nous apprendre, je pense, une certaine attitude devant les catastrophes de la fin d'un empire. Bon, tout ce que ça peut amener comme catastrophes à son époque, qui sont plutôt beaucoup des catastrophes militaires, hein, entre autres. Mais une certaine distance par rapport à tout ça. Enfin, lui, c'est à la fois un chrétien des origines, du début, et puis un stoïcien. Donc, il y a une sagesse qui s'exprime chez lui, une spiritualité, même en plus de la religion et même en dehors. Et donc, les deux réunis, je trouve que ça donne un caractère assez intéressant pour nous qui vivons quand même une période assez compliquée.
Et il vit la chute de l'Empire romain, hein, puisqu'il meurt au moment du siège d'Hippone par les Vandales. Hein.
C'est ça, exactement. La ville est assiégée au moment de sa mort, donc elle est assiégée déjà depuis un petit moment, et ils vont finir par prendre la ville après sa mort. Il a connu le siège de Rome, et puis tout un tas de villes ont été prises pendant sa vie, et il a beaucoup d'amis qui sont complètement affolés. qui se demande comment on va faire. Et lui, je trouve qu'il est très calme devant tout ça. Et je trouve que c'est un modèle.
Alors pour vous, Chantal Delson, l'Occident moderne, c'est un empire à la manière de l'Empire romain. Hein.
Ah ben oui, c'est un empire qui a commencé par coloniser par la force, sur tous les continents. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont été exemptés de ça. Et puis après, une fois la décolonisation faite, qui a colonisé par la culture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul pays qui n'est pas dans le monde, qui n'est pas adopté nos émancipations, notre médecine, nos techniques, notre capitalisme, etc. Enfin, on a vraiment, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un empire culturel. Et c'est ça qui est en train de s'effondrer quand on voit les pays de ce qu'on appelle faussement d'ailleurs le Sud global, qui nous disent, bah, écoutez, vos droits de l'homme, on n'a plus rien à fiche, ça ne nous intéresse pas, la démocratie, ça ne nous intéresse pas, d'ailleurs, ça ne marche pas chez vous, etc. Donc, c'est notre modèle culturel qui ne fonctionne plus.
Y compris quand Donald Trump dit « la justice internationale, je m'en fiche ».
Oui, alors ça, c'est encore autre chose, parce que que ce soit Trump ou que ce soit Poutine, ce sont deux parties de l'Occident qui refusent la fin de l'Empire et qui veulent continuer à conquérir, à prendre du terrain, à dominer à côté, à importer leur modèle. Lui, en fait, quand il dit ça, ça signifie que nous, occidentaux de la vieille Europe, on a été trop loin. Donc c'est encore autre chose. Qu'on peut critiquer, évidemment, mais c'est encore autre chose.
Alors nous, les Européens, nous sommes en train de nous apercevoir, je vous cite là, en tant que civilisation, de notre fragilité, de notre finitude, de notre imperfection et de notre particularisme. C'était pareil du temps de Saint-Augustin ?
Disons qu'il y a beaucoup d'analogies qu'on peut faire. Ce n'était pas exactement pareil, parce que historiquement, ça peut pas, deux périodes historiques ne peuvent pas véritablement se comparer, mais il y a des analogies très importantes, comme par exemple une partie de l'élite qui est affolée, qui veut absolument lutter contre les invasions, entre autres, et puis une partie de l'élite qui dit « c'est notre faute, on n'avait qu'à pas les coloniser », après tout, et puis finalement, ces gens-là ne sont pas pires que nous, etc. Enfin, il y a beaucoup de culpabilité aussi dans l'Empire romain. Donc il y a des analogies intéressantes.
Il faut voir qu'au moment de la chute de l'Empire romain, tout le pourtour méditerranéen est complètement romanisé. Hein. Les gens parlent latin et s'habillent tous de la même façon, comme aujourd'hui
d'ailleurs. Ce qui est le monde à cette époque, parce que bon, les Romains savent bien que l'Inde existe, mais ils ne veulent pas en parler, ils sont persuadés que les gens des territoires aussi lointains sont à moitié des hommes, à moitié des bêtes. Et d'ailleurs, on ne parle jamais de l'Inde dans les manuels scolaires à Rome. Donc, la terre entière, en fait, est romaine. Et ben, nous, c'est un petit peu ça qu'on a fait, finalement.
Du temps de Saint-Augustin, on passait du paganisme au christianisme. Aujourd'hui, dites-vous, la majorité des Occidentaux abandonnent la religion chrétienne, mais au fond, c'est la même inversion de croyance, pleine d'interrogations et d'incertitudes.
Oui, c'est une inversion, c'est l'envers qui se produit, c'est-à-dire qu'à l'époque, les chrétiens étaient en train de prendre, disons, le dessus du pavé, à ce point qu'il y avait des gens qui se convertissaient pour la carrière, ce qui prouve que cette religion avait vraiment pris. Quand il y a des gens qui ne sont pas croyants qui commencent à se convertir pour la carrière, vous voyez, c'est intéressant. Et toutes les lois païennes étaient mises en cause. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les lois chrétiennes qui sont mises en cause. Une sorte de retour. Alors, ça ne veut pas dire que nous allons retomber dans un paganisme, le paganisme qui existait à l'époque. Et on va créer d'autres choses. On va refonder d'autres choses à partir d'ailleurs des fondements chrétiens qu'on va peut-être revaloriser, récupérer, réemployer, pour ainsi dire.
Mais vous dites que le résultat est le même, au fond, l'universalisme est partout.
Il y a déjà des idées universalistes chez les Romains qui ont d'ailleurs donné l'universalisme chrétien. En fait, les chrétiens sont assis sur Rome, ils viennent de Rome, les chrétiens, ils sont très très influencés. Et l'universalisme des Lumières après, 20 siècles après, vient de l'universalisme chrétien qui lui-même vient de l'universalisme romain. Donc tout ça, ce sont des universalismes emboîtés.
On fait une pause, Chantal Delsol, on y revient tout de suite après.
C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Pendant les jours de l'évasion du 16 au 19 janvier, le nouveau SUV Citroën Aircross est à partir de 199 € par mois.
Citroën. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr selon réseau participant. Au quotidien, prenez les transports en commun.
À tous les motivés, en ce moment, le vélo d'appartement Zipro est à seulement 95,99€ sur Cdiscount.
Ah, une bonne résolution d'accompli.
Il suffit pas de l'avoir, il faut en faire.
Ah ça, ce sera ma prochaine résolution.
Profitez des soldes sur Cdiscount du 7 janvier au 3 février. Cdiscount, des prix bas qui ont de la voix. Cdiscount.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prix maximum Certinergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Si votre entourage vous trouve invivable, si vous ne supportez plus la sonnerie de votre réveil, si vous ne savez pas à quand remonte l'achat de votre matelas, c'est qu'il est temps de changer de literie.
L'Espace Topair vous propose les plus grandes marques de literie. Bultex, Treka, Simons, Tempur, Emma, Epeda, André Renault, dans le plus grand espace literie à Paris et à des conditions exceptionnelles. Alors pourquoi attendre plus longtemps ?
Espace Topair Rive Gauche, 66 rue de la Convention, Paris 15e. Espace Topair Rive Droite, 56 cours de Vincennes, Paris 12e. Topair.fr.
Si je te dis Dolce Vita.
Fiat.
Si je te dis pot de yaourt.
500.
Si je te dis branché.
Électrique.
Non, si je te dis branché.
Bah, 500.
Mieux, la nouvelle 500 hybride.
Évidemment 500, toujours branché, sans être branché.
Nouvelle Fiat 500 hybride à partir de 159 euros par mois et garantie jusqu'à 8 ans. Portes ouvertes ce week-end. Pour 500 hybrides Pop LLD 49 mois 40 000 km, apport 2800 euros sous condition de reprise. Reprise EcoFiat de 500 euros déduite, c'est accord crédit par jusqu'au 31 janvier. Détaillez conditions sur Fiat.fr. Fiat. Pensez à covoiturer.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Chantal Delsol qui publie La tragédie migratoire et la chute des empires chez Odile Jacob. Alors, on a parlé de la chute des empires, parlons maintenant de la tragédie migratoire. Pourquoi parler de la migration comme d'une tragédie ?
Parce que la migration est un phénomène, un événement, une somme d'événements qui met en cause deux nécessités contraires, oui. C'est ça une tragédie, c'est les nécessités contraires, la nécessité politique et la nécessité morale. La nécessité morale veut qu'on laisse pas des gens dehors, qu'on accueille les gens. Ça, c'est la morale universelle, éternelle, pas seulement chrétienne, générale. Et puis, la politique dit il faut protéger un territoire, une culture, une identité. S'ils sont trop nombreux à rentrer, on va perdre notre identité, etc. Et ces deux principes contraires, qui sont à la fois contradictoires et affamés tous les deux, provoquent une tragédie. La tragédie, c'est ça. C'est la lutte entre deux principes contraires qui sont affamés tous les deux.
En plus,
c'est notre problème.
En plus, dites-vous, les colonisations tous azimuts, dont l'Occident s'était fait une spécialité, portaient en germe l'immigration.
Ah ben complètement, je pense que c'est pour ça que je parle du passage d'un empire conquête à un empire refuge. L'empire conquête, c'est l'empire qui va partout pour coloniser, ce que nous avons fait par exemple en Algérie. Et puis après, une fois que la décolonisation est faite pour toutes sortes de raisons, par toutes sortes de moyens, l'empire devient un empire refuge, c'est-à-dire que les populations des pays colonisés, entre autres, sont attirées par le centre de l'empire qui est toujours... C'est pas pour rien que c'est lui qui a conquis, qui est toujours un endroit où il y a du confort, de la liberté, de la richesse, les lumières, etc. Et les gens des pays conquis veulent se réfugier au centre de l'empire qui devient un empire refuge. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit à Rome et qu'on voit ici aussi.
Oui, puisque vous rappelez que les barbares, hein, comme les appelaient les Romains des derniers siècles de l'Empire romain, ont été le plus souvent non seulement acceptés, mais invités et même désirés, dites-vous, hein, pour des raisons économiques et politiques, en même temps qu'ils étaient redoutés, même parfois détestés, notamment dans les couches populaires de l'Empire.
Mais tout existait, oui, bien sûr. Mais c'est assez logique de voir que l'Empire romain, bon, qui était un empire quand même sur le déclin, c'est compliqué d'analyser le déclin, il faudra plus de temps, mais c'était un empire qui avait des problèmes démographiques absolument énormes. Donc quand des vagues d'immigration arrivaient, il y avait beaucoup de Romains qui disaient « Mais attendez, on en a besoin pour cultiver la terre, pour rentrer dans l'armée. » À la fin, d'ailleurs, les armées étaient presque entièrement composées de ceux qu'on appelait les barbares, de toutes sortes d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. On a un problème démographique et il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, si on n'avait pas l'immigration africaine, comment ferait-on pour nos hôpitaux, vous voyez ?
À propos de la guerre, il y a une célèbre bataille, c'est la bataille des champs cataloniques en 451, entre Attila d'un côté et Aetius, le romain de l'autre. Ce qu'on oublie, c'est que des deux côtés, il y a des tribus germaniques.
Bien sûr, à la fin ils étaient tellement nombreux qu'ils finissaient par se battre entre eux, parce qu'il y avait des batailles de bagarres de pouvoir, ce qui est parfaitement humain. En fait, ils étaient entrés absolument partout, par tous les bouts, et beaucoup se comportaient très bien, hein, ceux qui étaient dans l'armée, ils défendaient Rome, hein, il n'y a pas de problème. Ils étaient devenus chrétiens, exactement ariens, ce qui est une hérésie de l'époque. Donc finalement, ils étaient très proches, hein, des Romains eux-mêmes. Ils ont fini par non pas se fondre dans la population, ça qui est intéressant. Ils ont créé des petits royaumes qui passaient des contrats, qui étaient ce qu'on appelle des fédérés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient conserver leurs propres lois, ils avaient un petit plus ou moins leur propre pouvoir. Et c'est de là que sont venus les royaumes francs, espagnols, donc visigoths au départ, etc. La France est venue de là. La France, au départ, c'est un royaume fédéré.
Pourquoi, à votre avis, les élites défendent-elles un universalisme toujours plus étendu, tandis que les peuples tiennent à leur identité ?
Parce que les élites ont moins besoin de leur enracinement, parce qu'elles ont une sorte d'enracinement, entre guillemets, plus ou moins mondial. Et donc, elles sont moins attachées à leurs racines que les peuples, qui, eux, n'ont comme amis que leurs voisins, vous voyez, pour prendre un exemple. Tandis que les élites, elles ont comme amis des gens des capitales voisines ou autres, donc elles sont moins attachées à leur racinement. Ça, c'est un phénomène qu'on observe partout.
Et aujourd'hui, donc, on nous dit qu'on a le choix entre fermer totalement les frontières ou les ouvrir à tout vent. Est-ce que c'est le cas ?
J'espère que non. Il y a un certain nombre de pays qui se débrouillent beaucoup mieux que nous. Si je prends deux pays complètement différents. Prenez l'Australie. L'Australie ne laisse pas rentrer des gens qui ne parlent pas, ne laisse pas rester des gens qui ne parlent pas correctement la langue, mais vraiment correctement. Ou alors elle ne garde pas des gens qui respectent pas les lois et elle peut vraiment les mettre dehors. Elle les renvoie chez eux. Bon, de façon peut-être courtoise, mais elle les renvoie vraiment. Elle ne fait pas que dire qu'elle les renvoie. Enfin, chez nous, mais si vous prenez la Suisse reçoit énormément d'immigrés. Et comme c'est complètement décentralisé, la Suisse, elle arrive à les intégrer. Et quand ils font pas le job, elle les renvoie vraiment. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas que dire qu'elle les renvoie. Elle les renvoie en réalité. Donc ça existe, c'est possible. On n'est pas obligé de tout fermer ou de tout ouvrir. On peut très bien faire ça de façon intelligente et généreuse, à la fois généreuse et lucide.
Pour vous, Chantal Delsol, la chute des empires est toujours provoquée par l'immigration ou pas ?
Ah non, pas du tout. Non. Vous savez, la chute des empires, ça a été bien étudié par un certain nombre de penseurs du genre Spengler, Toynbee, et après d'autres, Rostovtsev, etc. La chute des empires vient plutôt de problèmes internes. Le déclin, c'est un problème interne. Si le déclin, si la chute vient de l'immigration, c'est que l'Empire lui-même n'aura pas su réagir intelligemment, correctement, généreusement, mais lucidement à l'immigration. C'est pas à cause des immigrés, c'est à cause du fait que l'Empire lui-même ne saura pas se décider à faire exactement ce qu'il faut, sans être obligé de renvoyer tout le monde. C'est pas le problème. Je crois pas du tout à ça.
La tragédie migratoire et la chute des empires, c'est le titre de votre nouveau livre qui vient de paraître chez Odile Jacob. Merci Chantal Delsol.
Merci à vous Frédéric Taddeï. À bientôt.
Europe 1.
C'est arrivé demain, est arrivé à son terme. On se retrouve samedi matin prochain à 9h pour la suite. Passez une excellente semaine sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, animé par Pierre de Villeneuve. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric.
Qui est votre invité ?
Mon invité est la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard.
Bonne émission.
Toyota. Aussi, franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de trois rues. Coincé dans les bouchons ? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota Ego Cross.
100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota Ego Cross est à partir de seulement 159€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota Ego Cross Dynamic LLD 37-30 000 km, premier loyer 3 990€, réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 février dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Écoutez ou réécoutez toutes vos émissions préférées.
Disponible en replay sur l'application Europe 1. Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version. Voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
Aujourd'hui, dans le journal du dimanche, Macron s'en va en guerre. Le JDD décrypte les communications guerrières du président de la République sur le Groenland, l'Ukraine et la faiblesse des actes posés en face. Dans le JDD également, l'euthanasie, l'écrivain Michel Houellebecq prend la plume pour s'opposer à une grande dérive qui sera discutée au Sénat. Chaque dimanche, retrouvez le JDD avec le JD News et le JD Mag chez votre marchand de presse à seulement 2,90€.
On avait dit 2026, fini le superflu.
C'est le cas, Leapmotor T03 électrique.
Et la caméra de recul, le toit panoramique.
Et cette série, dès 139€ par mois et sans apport, pendant les portes ouvertes du 16 au 18 janvier.
Ah, waouh ! Citadine électrique T03, c'est ça la bonne résolution. Leapmotor, lancez-vous. LLD 36 mois, 30 000 km, prime Certinergie 360€ déduite pour une T03 neuve hors option. Réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu'au 31 janvier si acceptation crédit.